Merci, mon ami. Merci beaucoup. Donc, je peux recommencer. Oui? Chers amis, excusez-moi. Je ne vois pas de petits signes. Si vous écoutez.
Mais vous laissez le temps d'arriver.
Oui. Que la gloire de Dieu soit sur nous, pour nous aider à marcher dans ses voies. Recevons son pardon et bénédiction. Allons en paix, dans la joie, dans l'amour. Jésus est le chemin, il est la vérité, Jésus-Christ est la vie, et il m'a sauvé. Jésus est le chemin, il est la vérité. Jésus-Christ est la vie et il m'a sauvé. Chers amis, si vous m'entendez, faites un petit signe, un petit cœur, un petit, vous savez, hein, le petit truc là qu'on voit souvent, pour que je sache si vous entendez, si vous voyez. Voilà. Voilà, merci. Merci pour le petit signe bleu que je viens de recevoir. Merci. Et donc, je vous ai cité le pasteur John Clayton, qui est en train de se relever lentement. Et nous avions invité cet ami catholique, Baudouin, à une réunion de prière samedi soir, et je remarque qu'il y a des petits signes d'amélioration. Il ne les voit pas encore, parce qu'il souffre encore au niveau respiratoire, et plus de vivacité, plus de lumière dans ses yeux, etc. Et prier pour Baudouin. Et je voudrais vous recommander aussi une personne musulmane qui m'a téléphoné, qui est turque, et qui demande à avoir des contacts, qui demande à avoir une relation d'aide, une relation d'amitié, et sans doute qui cherche vraiment le Seigneur. Mais qui ne sait pas encore vraiment l'exprimer, parce qu'elle ne parle pas très bien français. Donc, priez pour cette personne, qui s'appelle Eiji. Je ne prononce pas tout le mot, tout le nom. Priez aussi pour une autre jeune femme, plus jeune, la première a 56 ans, l'autre, une autre, son amie, qui a 33 ans, et qui a vraiment déjà reçu, accepté le Seigneur en son cœur, qu'il faut instruire, qu'il faut former et qu'il faut accompagner, ça prend du temps. Il s'appelle Nas. Je ne prononce pas le reste du nom non plus. Nas. Priez pour ces personnes qui veulent, qui sortent de l'islam, qui ont un cœur porté vers le Seigneur Jésus. Jésus vit toujours. Jésus agit. Et ces personnes sont soumises à de fortes, fortes pressions. Parfois même à des malédictions, à de grands sévices. Donc, la grâce est donnée à ces personnes, priez, pour que les anges de Dieu soient autour de ces deux femmes, Égie et Nas. Alors, je voudrais vous remettre aussi deux familles de notre région, sans les citer, deux familles de notre région où les enfants subissent de très grands maux, de très grands sévices. Je vous demande de prier pour ces deux familles où les enfants subissent des sévices sévères. Et donc je reprends pour ceux qui viennent d'arriver, qui sont remis, mon ami John Clayton, mon ami Baudouin et une musulmane encore, qui l'est encore, mais qui veut en sortir, Égie, je ne prononce pas le reste du nom. Égie, 56 ans, une autre qui est déjà ressentie et qui a accepté l'appel de Christ et qui lit l'Évangile et qui a bien du mal parce qu'elle a été mise en quarantaine, enfermée dans sa chambre, 33 ans, privé de nourriture, etc. Et qui a reçu des malédictions, des liens terribles. Et qui est Nas, je ne prononce pas plus. Alors, priez pour ces deux familles où il y a des enfants qui subissent de grands sévices. Et je prie aussi, bien sûr, moi-même. Je voudrais vous demander de prier aussi pour un couple chrétien du milieu de la France, d'environ 40 ans, qui sont tiraillés par l'addiction à l'héroïne. Et ils aiment le Seigneur et désirent être totalement guéris. Ils ont des liens, ils ont en tout cas des pressions sur eux, parce qu'ils viennent d'une secte très forte. Et prier pour ce couple qui veut s'en sortir, que j'accompagne autant que je peux, et qui aiment le Seigneur Jésus, et qui ont déjà donné leur vie à Jésus, et qui sont fortement attaqués. Cet accompagnement est difficile, parce qu'il y a la distance. Et cet accompagnement est difficile parce que c'est pas à moi, ni à personne, de pouvoir casser certaines attaques spirituelles sur ces personnes. C'est à Christ. Donc, c'est dans l'humilité qu'il faut prier pour ce couple. Dans l'humiliation de la prière, évidemment. Autant qu'il se peut, il faut prier pour ce couple qui est lié à l'héroïne. Et qui aime le Seigneur, qui lit la Bible. Alors, je voudrais vous demander aussi de prier pour Saïd au Pakistan, qui a attrapé le Covid et qui est dans un sale état. Et beaucoup de chrétiens là-bas ont attrapé le Covid, mais ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas de médecins et pas de masques. Ils n'ont pas d'argent pour acheter des masques, rien. Et de ce fait, tout le monde est mis dans le même panier. Des centaines de personnes chrétiennes sont sans travail, donc sans revenus, donc sans possibilité de se nourrir. Fort heureusement, ce mois-ci, nous avons pu envoyer assez d'argent pour nourrir 105 enfants de l'école de ce village et pour les deux institutrices. Et un petit peu pour ce pasteur pour se soigner. Mais priez pour Saïd, ce village, dont je ne dirai pas le nom, pour qu'il n'y ait pas de représailles. Vous comprenez bien qu'il faut être économe dans ce qu'on dit. Parce qu'il y a beaucoup de sévices contre ces chrétiens dont ils n'osent pas me parler sur WhatsApp ou Facebook ou Messenger ni au téléphone. Priez pour ces frères. L'association Portes Ouvertes, dans son dernier numéro, nous dit qu'il y a 380 millions de chrétiens fortement persécutés. Ils en font partie. Ils en font partie. 380 millions. C'est pas 380 000. Dernier numéro de Porte Ouverte. Si vous ne l'avez pas, cherchez sur Internet Porte Ouverte et demandez à vous abonner à cette revue. C'est quand même impressionnant de voir que la petite église de Philadelphie, qui est sans puissance, Apocalypse chapitre 3, dont la porte reste ouverte, dont Dieu a ouvert la porte, n'est-ce pas? Je vous lis le texte, c'est quand même très important. Voici Apocalypse chapitre 3 verset 7, écrit à l'ange, donc au messager, au responsable de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, donc le Christ. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme, personne n'ouvrira, c'est le Christ. Lisez chapitre 10 de Jean, vous verrez. Il est le portier. Je connais tes œuvres, donc tes engagements, ta foi, voici, parce que tu as peu de puissance, et c'est le cas de le dire, tous ces gens-là sont sans puissance face à leurs oppresseurs, et qu'ils n'utiliseront pas des moyens armés, des moyens violents, des moyens de méchanceté. Parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, persévérance, c'est-à-dire à travers la difficulté, les épreuves. Je te garderai aussi l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Oh ben, je pense que, je ne sais pas comment en dire, 380 millions, c'est pas 38 000, hein. Si ce n'est pas l'épreuve qui vient sur la terre, sur les enfants de Dieu, s'il vous plaît. Alors, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Donc, la colonne, ce n'est pas forcément un pilier du temple. Dans l'Empire romain, il y avait de nombreuses autoroutes, hein, c'est-à-dire les voies romaines, et régulièrement, il y avait de très grands stèles à l'honneur d'un général, d'un empereur, en indiquant les kilomètres, les villes, à droite, à gauche, devant, derrière, qui, les directions. Ce stèle faisait plusieurs tonnes, 8-10 mètres de haut. Donc, il y en a une ici, à 60 kilomètres de chez nous, à Ingel, sur l'ancienne voie romaine qui menait à Trèves, en Allemagne, de Reims à Trèves, eh bien, c'est une colonne, c'est ça. Donc, je ferai de toi une colonne. Hein? Une colonne visible de tout le monde, une référence. Une référence de Christ dans le monde, qui est dans l'épreuve. Hein? Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Certains me diront, chers amis, en bon théologien, que les tribulations ne sont pas encore là. Mais je pense que c'est généralement des personnes qui ont un bon lit, un bon fauteuil, un bon canapé. Mais tous ces chrétiens sont dans la tribulation. Alors, donc, prions pour Saïd, prions pour tous ses frères, ce pasteur dévoué de 33 ans qui est malade et qui dépend de nous, tout compte fait, hein. Mais les gens ne sont pas paresseux. Dès qu'ils peuvent travailler, ils travaillent. Mais là, on les interdit. Les seigneurs de la terre, eux, ont la liberté de trimballer, de sortir, d'aller dans leur lieu de prière, mais pas eux. Alors, prions pour tous ceux qui l'entourent. Et je vais vous dire, j'aimerais bien de vous dire cela, que Saïd circule dans des villages, beaucoup de villages, et avec sa petite moto. Il faut vous dire, dans un autre village, je ne dirai pas le nom, j'ai les noms, et chaque localité a un numéro au Pakistan, et un nom. Dans un autre village, il y a 25 à 30 familles chrétiennes. 25 à 30 familles chrétiennes, ça fait à peu près 40 femmes et hommes, et ça fait à peu près 68 enfants. Dans un autre village, c'est la même chose, à peu près la même quantité d'hommes, de femmes et d'enfants, qui font des briques dans la boue aussi. Un autre village, idem. Un cinquième village, il est plus gros, la fabrique de briques est plus importante, et là, il y a 25 familles, il y a 100 adultes et 75 enfants. Chers amis, une Bible pour un adulte, dans la langue du pays, en ourdou, coûte 8 euros. Un évangile en dessin, avec des commentaires pour les enfants, pour qu'ils comprennent la parole de Jésus, 10 euros. Et j'ai demandé s'ils se révoltaient contre Dieu, s'ils abandonnaient, s'ils allaient vers l'islam. Aucun. Aucun. Tous restent fidèles. Et ils sont là pour prier ensemble et adorer Dieu, c'est l'église d'Apocalypse sur moi. Chapitre 3. Si je ne veux pas jouer ergoté, sommes-nous dans la tribulation déjà ou ne sommes-nous pas encore? Mais toujours est-il que ceux-là connaissent la tribulation qui augmente tous les ans. Tous les ans, il y en a 20 millions tous les ans, en plus de persécutés, d'après Porte Ouverte. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut. Ouvrons nos yeux, prions, invoquons le Seigneur pour tous ces hommes et ces femmes. Et je remercie ceux qui m'ont envoyé de l'argent. Nous-mêmes, nous faisons des efforts considérables à la maison pour ça. Je remercie. C'est formidable. Alléluia. J'ai d'autres sujets de prière, chers amis. Beaucoup. Énormément d'autres. Et il y en a un très important. Nous sommes à une étape extrêmement importante. Il s'agit de notre projet de maison de prière et de vie qui est situé à 5 km, à 15 mètres de la frontière française. Depuis 2007, l'achat a été fait à un moment où il y avait plein de réfugiés chez nous. Il fallait environ 35 à 45 000 euros pour accueillir tous ces réfugiés. Et l'argent venait de chrétiens. 20, 30, 40 euros, 100 euros, 500 euros. Et finalement, le budget était bouclé tous les ans pour accueillir tout ce monde. Nous avons été jusqu'à 35 dans la maison. Tous ces gens ont entendu l'évangile. Tous ces gens ont pu échanger avec nous. Et comme le culte se faisait dans la maison, ont pu participer au culte. Même des musulmans. Le travail n'était pas seulement de les accueillir, mais de les instruire, de leur annoncer la parole de Dieu. Ce travail étant terminé, nous avons dû, parce que nos filles insistaient pour cela, poussées, je pense, par l'Esprit Saint, nous avons dû assister à notre projet. C'est la création d'une école pour les enfants de la région, et qui est très bénéfique. Beaucoup de personnes sont intéressées par ce projet. Lors du marché d'automne, dernier vendredi d'octobre, il y avait 100 personnes, bien que cette année-ci, il n'y ait que 6 enfants. Et figurez-vous que l'année passée, on avait 12 enfants, dont 7 convertis, dont 2 qui viennent au culte depuis lors, en plus des enfants de notre famille, de nos petits-enfants. Alors, chers amis, l'école est un projet que moi, j'avais mis dans l'oreille de nos filles quand elles avaient 16, 17, 18 ans, quand elles allaient aller à l'institut. Mais ça leur faisait peur. Elles n'ont pas voulu. Plus tard, au double de cet âge-là, à 35, 36 ans, de leur propre gré, et après avoir prié, elles ont cherché à faire ce beau travail qui consiste à enseigner les enfants dans la Bible, dans l'Évangile, et à les instruire. Elles le font très bien. Les inspecteurs, quand ils viennent, sont très heureux. Quand les enfants passent les examens de manière générale, avec d'autres élèves d'autres écoles, ils se portent bien, ils réussissent. Et nos filles ont une grande présence, sont une grande richesse évangélique auprès des adultes. Des adultes qui écoutent, qui se lient d'amitié et qui viennent de loin, entre guillemets, qui étaient très loin dans l'ésotérisme, l'occultisme, toutes sortes de choses, du New Age. Et donc ce travail, ce projet de l'école est venu se faufiler dans notre vie et a un peu pris les devants sur le projet de la maison de prière. Mais c'est le plan de Dieu. Nous l'acceptons. Et nous voudrions que cette maison de prière se fasse. Ma femme et moi, et 2-3 chrétiens, 4, on n'est pas nombreux dans l'église, d'autres sont dans l'expectative en se disant est-ce que peut-être bien oui, peut-être bien que non. Ils attendent jusqu'aux dernières limites de savoir si Dieu interviendra. Nous-mêmes d'ailleurs, nous cherchons la volonté de Dieu. La mairie nous demande, parce que la maison est abandonnée, de payer pour un bâtiment abandonné une taxe de 75 euros au mètre courant de façade, ce qui nous fait 3 300 euros à payer dans l'année, à moins qu'on ait donné une autre réponse, en disant que on commence des travaux ou qu'on s'installe, par exemple qu'on pose des containers convenables dans lesquels on puisse faire le culte, et un container pour mettre un couple ou quelqu'un qui surveille la propriété et qui y travaille progressivement et met en route le travail de réfection. La commune n'est pas hostile à nous, mais la commune a d'autres bâtiments sur sa superficie, sur 11 villages, qui sont aussi d'autres bâtiments qui sont comme ça abandonnés, et il y a des gens à loger. Donc c'est une politique pour obliger les propriétaires négligents à bâtir ou à vendre, de façon à ce que d'autres puissent habiter, se loger. Nous sommes donc en demeure, soit d'abandonner le projet à l'Assemblée générale à la fin février ou en mars, ou soit de voir la main de Dieu nous délivrer et nous aider à la dernière minute. Ça nous est arrivé souvent que c'est à la dernière minute que Dieu montre sa gloire, montre son autorité et que nous avons la conviction que nous étions des incapables, on ne pouvait pas le faire par nous-mêmes. Et c'est souvent comme ça avec le Seigneur. C'est souvent comme ça avec le Seigneur. Nous sommes brisés dans notre élan, nous devons nous attendre à lui et faire foi. Alors, je vais bien sûr faire une lettre de nouvelles pour parler de ce projet. De quoi s'agit-il? Cet ancien café, restaurant dancing, où sur 50-60 ans sont passés des milliers de Français et de Belges, c'est connu de tout le monde. C'est un endroit connu, très connu. Il est désaffecté pour le moment. Nous en sommes pleinement propriétaires, avec 26 arts alentour et 11 arts de forêt. Mais qu'allons-nous faire? Le vendre? Qu'allons-nous faire? Abandonner ce projet? Voici le projet. Faire le culte le dimanche. Et comme quelqu'un me disait aujourd'hui, mais si ce n'était plus dans la maison chez Bayeux, dans cette ancienne étable, mais ce serait une belle salle, un temple, une maison appropriée, une maison comme une église, je viendrais au culte. Je pense que pour beaucoup d'humains, le matériel, la matérialité des choses, je dirais le côté charnel, les touche beaucoup. Quand une église a un bâtiment, et à pignon sur rue, elle l'attire du monde. Tant qu'elle est pauvre, elle est petite, elle vit un peu cachée et retirée, eh bien ce n'est pas très intéressant. C'est le côté charnel des humains. Mais nous le connaissons, le côté charnel. Jésus le connaissait aussi. Il est venu sur la terre en sachant tout cela. Et nous le savons aussi. Mais si ce bâtiment existait et qu'il vient 50, 100 personnes et que en un an, deux ans ou en six mois, toutes ces personnes entendent la parole de Dieu et reçoivent l'Esprit Saint, quelle belle œuvre pour la région, quelle gloire pour le Seigneur, pas pour nous. Donc nous persistons à croire jusqu'à la dernière minute à l'intervention du Seigneur pour cette maison de prière. Même si c'était provisoirement des containers sur le terrain et pour une valeur de 15 à 20 000 euros, évidemment, j'en avais trouvé il y a 3 ans pour 10 à 12 000 euros, mais pratiquement, bien sûr, il faut sécuriser la propriété, sans doute qu'il faut 2-3 fois ça pour sécuriser tout. Alors, ce qui se passe, c'est
une église du midi, il veut bien nous prêter des sous, mais il faut les
rendre. Une église du centre de la France veut bien nous prêter de l'argent, mais prêter, il faut le rendre. Comprenez bien que, oui, si on recevait 50 000 euros ou 100 000 euros et puis qu'on nous prête 10 000 euros, recevoir 10 000 euros n'est pas effrayant. On les rembourse. Mais si on reçoit plusieurs dons, plusieurs prêts, et qu'il faut tout rendre, on ne tiendra pas le coup. Nous sommes une église qui a toujours partagé avec les pauvres, une église qui n'a jamais engrangé des grands trésors, des grandes fortunes. Jusqu'à ce jour, voici le projet. 1. Le culte. 2. Une exposition biblique permanente où les personnes viennent s'instruire sur la Bible, où des gens de l'église à tour de rôle tiennent la permanence. Certains jours, etc. Ensuite, un dépôt de livres de maisons d'édition chrétiennes où les personnes, nous ne ferions pas de bénéfice, les personnes viennent acheter et on renvoie l'argent et on renvoie les invendus aux maisons d'édition chrétiennes. On l'a déjà fait dans le passé, après plusieurs expositions bibliques. On vendait beaucoup parce qu'il n'y a rien dans la région à ce niveau-là. Surtout au niveau d'une fidélité biblique, évangélique. Alors, il y a, en dehors du culte, de l'exposition biblique et de ce dépôt de livres, dépôt-vente, il y a moyen, il y a beaucoup de livres chez nous, de faire une bibliothèque où les personnes s'asseyent, consultent des livres et pourraient être conseillées dans leur lecture. Donc, un apprentissage de la lecture de la culture chrétienne, ce qui est très important. Nous sommes dans une région sans culture chrétienne, sans connaissance, sans base. Et donc, il faut être pédagogique, il faut aider, il faut même avoir sur ordinateur des petits programmes où les personnes peuvent travailler d'elles-mêmes, etc. Bon, et, s'il vous plaît, il y a autre chose. C'est qu'il y a des personnes qui sont venues chez nous, fatiguées, déprimées, qui ont eu besoin d'être encouragées, d'être logées. Eh bien, ça devrait se faire, pouvoir se faire là-bas. Pour quelle raison? Parce que nos 6 enfants, 3 sont chrétiens, 3 ne le sont pas. Si la moitié revient à l'école, l'autre moitié revient aux 3 autres. Alors, c'est il n'y a plus. Il y a, alors, de notre maison. Alors, cette partie qui revient aux 3 autres, qui ne sont pas pour le moment chrétiens, cette partie ne servira pas à l'Église ni à ce projet. Il faudra donc, bien sûr, il faudrait, c'est l'instant de prière que je fais tous les jours, il faudrait que ce projet se réalise pour que l'œuvre de l'Église puisse continuer. Mes chers amis, tout cela, je vous le dis de bon cœur et humblement. Il n'est pas question pour moi d'en tirer une belle cravate, un beau costume, une belle voiture sur un beau parking. Simplement pour le Seigneur. Jésus de Nazareth, mort pour nos péchés et ressuscité, et pour sa gloire. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui dans l'enseignement. Dans tout ce que je voulais vous dire, c'est très important, chers amis. C'est à cœur, vraiment un cœur en Christ, je le dis. Je pense que beaucoup de chrétiens peuvent donner 50, 100 euros, 300 euros pour ce projet. Oui, et ils ne peuvent pas les donner à la mission où je suis, parce que c'est une association cultuelle. S'il faut les donner, il faut les donner à l'Église elle-même, notre Église. Et il faut se renseigner, demander le numéro bancaire. Bien sûr, nous pouvons certifier que cela ne sera pas détourné. Nous envoyons un réviseur au compte, et qui est un juge du tribunal du travail, et qui fait ça gratuitement pour nous, depuis des années. Il est intègre, il est juge du tribunal du travail, il a été gérant d'une grande banque, ici, à 5-6 kilomètres, et moi j'ai été guidé par le Seigneur à lui demander d'être le réviseur de nos comptes. Et il le fait avec joie, avec simplicité de cœur, et il nous aime beaucoup. Et je pense qu'il a besoin de voir la gloire de Dieu. C'est peut-être ça, pour ça. Parce qu'il nous observe, il nous écoute, il pose des questions. C'est un athée, mais c'est un athée de bonne volonté. Il vaut mieux un athée de bonne volonté qu'un chrétien de mauvaise volonté. N'est-ce pas? Vous êtes tous d'accord avec moi. Donc, si quelque chose arrivait sur le compte de l'Église pour ça, je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent donner que 10 euros, 20 euros, c'est clair. Mais c'est aussi important que celui qui donne 500 euros. Et puis, il y a celui qui en a à gogo, qui peut donner tout de suite 50 ou 100 000 euros, parce qu'il les a. Et cela aussi, c'est important. C'est pour ça que dans les jours, dans les 20 jours qui viennent, chers amis, je vais me mettre à genoux. Je le fais déjà souvent pour d'autres choses, mais là, dans la crainte et le tremblement, priez aussi, chers amis, priez aussi. Parce que je pense à quelque chose qui est plus important. Si les règlements en France deviennent de plus en plus hostiles au niveau de la liberté religieuse, s'ils deviennent de plus en plus forts contre la foi, où iront certains chrétiens qui veulent partir? Ils pourraient venir dans notre région. Ça s'est déjà arrivé dans le passé, qu'il y avait des vagues de chrétiens qui arrivaient chez nous, en Hollande, en Allemagne. Eh bien, où ils iraient? À 15 mètres au-delà de la frontière, ils sont en sécurité. Un lieu d'accueil, un stade, un refuge, puis ensuite pour partir, trouver une maison, etc., un travail. Voilà mon idée, c'est que je pense que cette maison est essentiellement vouée à répondre aux besoins de chrétiens français. Nous sommes belges par accident. Comme vous, vous êtes français par accident. Comme d'autres sont chinois par accident. Nous sommes enfants de Dieu par grâce. Là, il n'y a pas d'accident. Dieu l'avait décidé. Dieu nous a appelés. Dieu nous a choisis. Dieu a convaincu notre cœur de péché. Dieu nous a amenés à confesser notre péché. Dieu nous a montré l'amour de Christ à la croix. Dieu nous a montré la puissance de la croix qui brise le péché. Dieu nous a montré le don du Saint-Esprit. Dieu nous a montré l'autorité de la parole de Dieu. Dieu a donné et il ne reprend pas. Dieu veut que son royaume s'étende. Et quand Christ aura établi son royaume sur terre, croyez-vous que nous ne ferons rien? Ceux qui seront là. Cette maison-là peut continuer à servir. Chaque église qui a un bâtiment pourra servir dans le royaume de Dieu. Il n'est pas question de dire qu'on va laisser tomber les bras quand Jésus sera revenu. En plus, le travail sera bien plus important. Donc, rien n'est perdu quand ça appartient à Dieu. Rien n'est perdu. Soyez bénis. Et je voudrais lire un texte, évidemment, pour conclure. Le général en chef des armées du ciel a mené la bataille. Chaque fois dans l'Apocalypse, on le voit. Le général en chef des armées du ciel a commencé la bataille. Il a déjà commencé la bataille, la première bataille, avec la mort de Christ à la croix et sa résurrection. Et il l'a gagné. Christ est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Christ a gagné la première bataille alors que Satan croyait avoir réussi. Il a échoué. Dans tous les cas de ministère où je vois de l'occultisme, dans tous les cas où il y a eu des misères dues à l'occultisme, aux malédictions, en demandant au nom de Jésus, avec tous les chrétiens, mes amis chrétiens, nous avons vu Christ intervenir pour délivrer, pour rendre heureux des personnes, les rendre libres. Et nous voyons à travers le monde, dans ce monde où il y a tellement de puissances hostiles à la foi chrétienne, nous voyons des gens qui viennent à Christ en milieu hostile. Hier à Bruxelles, lorsque je suis descendu à la gare Schumann, je devais me rendre, aller chercher cette jeune femme de 33 ans, là où elle séjourne, dans un centre de femmes provisoire. Et je vais à 100 mètres de là, de la communauté européenne, je vais prendre un taxi. Et je vois une dame qui arrive, qui prend le premier taxi, moi je prends le deuxième. Puis je monte dans ce taxi, et je vois à gauche, sur le tableau de bord, juste dans le coin, devant le chauffeur, une croix. Alors, pendant qu'on allait chercher la jeune fille, je dis, vous êtes chrétien orthodoxe, arménien? Non, non, je suis chrétien araméen. Si vous voulez, chaldéen. Et je dis, c'est les tout premiers chrétiens de l'Évangile. Jésus a parlé araméen. Mais oui, oui. Vous savez, nous avons beaucoup souffert. Mes parents, mes grands-parents ont dû fuir en Turquie. Puis en Turquie, elle nous a fait souffrir. Et pour finir, il a fallu partir en Europe. Vous savez ce que c'est que l'épreuve. Vous savez ce que c'est d'être chrétien, mon ami. Vous êtes un frère pour moi. Voilà comment j'ai parlé à cet homme. Vous êtes un frère pour moi. Eh bien, je vais vous dire pourquoi je viens à Bruxelles et où vous me conduisez. Je viens chercher une jeune fille musulmane qui a accepté Jésus pour la passer 3 heures avec elle, au froid, dehors, pour s'entretenir de la Bible et du Seigneur. Pouvez-vous me conduire là-bas? Alors, en cours de route, je lui ai donné ma carte. Cet homme, quand il m'a déchargé, qui a déchargé la jeune fille, n'a pas voulu plus que 15 euros. Pour son patron. Tout le reste lui était redu, environ 20 euros, il ne les a pas voulu. Ce chrétien a été profondément touché par le fait que j'allais voir cette jeune fille d'origine musulmane. Et je vais vous dire, un vrai chrétien est toujours touché lorsque l'œuvre de Dieu passe sous son nez. Quand le Seigneur fait quelque chose par quelqu'un, que ce soit moi ou vous, quand un vrai chrétien le voit, il sait que le Seigneur est à l'œuvre là. Et il réagit autrement que le monde, que les gens du monde. Je remercie le Seigneur d'avoir rencontré cet homme. Paolo, c'est le nom de l'apôtre Paul, il me l'a dit, en araméen. Paolo. Et je lui ai donné ma carte. Je lui ai dit, bienvenue en été à Gomery, les bains de pied, chez nous, avec votre femme et les enfants. Qu'est-ce que je serais content de pouvoir louer le Seigneur en araméen avec vous et avec nos trois filles qui ont fait l'institut. La première bataille, c'est Christ. C'est la victoire de Christ et c'est l'élection de Christ, l'élection de Dieu en Christ qui s'opère dans le monde à l'œuvre maintenant. Donc la deuxième bataille, si vous voulez, la première bataille à la croix, à sa résurrection, la deuxième bataille, c'est aujourd'hui la puissance de Christ qui brise le péché dans la vie de beaucoup de cœurs, qui appelle des hommes à la foi, qui appelle les hommes à la sainteté, et qui, malgré toutes les œuvres de Satan, les mauvaises œuvres des humains, résiste et continue dans la foi dans le Seigneur Jésus. Donc la deuxième bataille, c'est la bataille de la foi. Et c'est une bataille qui est gagnée par beaucoup de chrétiens. Généralement, chez ceux qui acceptent de souffrir, de marcher à genoux. En êtes-vous, les amis? La troisième bataille, chers amis, la troisième bataille, elle sera assurément victorieuse. C'est la défaite des puissances mondiales, des puissances d'argent, des puissances diaboliques qui sont en train de prendre autorité et que Dieu laisse faire pour un certain temps. Ils se figurent qu'ils ont tous les droits. Hein? Cette troisième bataille où ils vont être vaincus est prochaine. Cette bataille sera suivie de grands signes de puissance et Christ enlèvera son Église et la protégera. Serez-vous vainqueur dans cette bataille? Aurez-vous gardé la foi finalement? Aurez-vous gardé la parole de Dieu dans votre cœur? Si vous acceptez de traverser cette troisième épreuve, vous êtes dans une bataille où Christ sera vainqueur. Je vous en prie, il faut être courageux aujourd'hui. Être chrétien n'est pas une planque. Ou en tout cas, si en Occident, c'en était une, c'est fini. Très vite, très fort. Très bientôt. Mais nous aurons un grand maître, un grand seigneur. Il est puissant dans son amour, dans sa vérité. Recueillez-vous dans le secret de votre cœur. Voyez comment il va briller dans votre cœur, comment il va vous relever de vos forces, comment il va vous conduire dans une lumière que les autres n'ont pas. Quand je circule, hier sur les trottoirs de Bruxelles, et dans les gares, dans le train, combien de gens sont dans les ténèbres? Ils ne savent plus où ils en sont. Boulot, métro, dodo et Covid. Chers amis, Jésus-Christ dans notre cœur. Jésus-Christ, notre lumière, notre berger. Et c'est le psaume 23. Le berger me conduit vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles, à travers les vallées de l'ombre et de la mort. C'est notre société. Et il dresse une table en face de mes ennemis, et il me oint d'huile, et il me donne l'eau de vie, l'eau paisible, l'eau de la paix. Chers amis, lisez le psaume 23, vous verrez la bénédiction qui vous attend. Lisez Jean chapitre 10, 10 fois s'il faut, que le Saint-Esprit vous éclaire. Amen.